Bonjour, vous êtes sur Offensive Sonore, l'émission mensuelle du collectif Chapacan, groupe marseillais de la vaste et subversive organisation Offensive Libertaire et Sociale. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Régis Dubois autour des questions de cinéma, politique et idéologie. Régis Dubois est marseillais, il a 35 ans et enseigne le cinéma. Il a publié plusieurs livres analysant les liens entre société et cinéma, cinéma et politique, cinéma et idéologie, notamment dans son ouvrage « Le cinéma des Noirs américains entre intégration et contestation » publié au CERF en 2005, ou encore « Une histoire politique du cinéma » publié chez Sulliver en 2007 et « Hollywood, cinéma et idéologie » en 2008 chez le même éditeur. Il collabore à diverses revues et magazines, dont « Thousand Organ » et « Contretemps ». Il anime également un blog internet intitulé « Le sens des images, blog cinéma et politique » qu'on peut retrouver sur le web www.lesensdesimages.blogvie.com. Régis Dubois, bonjour. Donc tu es marseillais. Depuis une dizaine d'années, tu travailles autour de la question de cinéma et politique, cinéma et idéologie. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus en détail tes recherches, tes travaux et ton parcours, ce qui t'a amené à travailler autour de ces questions-là?
Bonjour, donc oui, j'ai étudié le cinéma à la fac d'Aix-en-Provence et j'ai travaillé d'abord, dans un premier temps, sur les Noirs dans le cinéma américain, sur l'image des Noirs, pour montrer en fait que les stéréotypes perduraient encore dans les années 90, puisque c'est la période que j'ai étudiée. Et ensuite, donc c'est un ouvrage en fait qui est paru, hein, qui s'appelle Image du Noir dans le cinéma américain, qui est paru chez l'Harmattan en 97. Et ensuite, donc, j'ai poursuivi sur une thèse, et là, j'ai travaillé sur les cinéastes afro-américains et sur le cinéma des Noirs américains. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce que ces cinéastes, en fait, tentent par le cinéma de valoriser l'image des Noirs. Et c'est un peu le point commun entre tous les films, en fait, réalisés par des Afro-américains, c'est quand même de proposer une image positive des Noirs. Et donc, j'en suis venu, bien sûr, à m'intéresser aux questions du cinéma et ses rapports avec l'idéologie au sens large, hein, notamment le cinéma hollywoodien, et sur la question politique, hein, comment le cinéma est-il politique et comment l'idéologie vient au film, en fait. Hein. Et il se trouve que j'ai publié plusieurs ouvrages sur la question, une histoire politique du cinéma et un ouvrage récent qui s'appelle « Hollywood, cinéma et idéologie ».
Donc justement, cinéma et politique, qu'est-ce qui est politique dans le cinéma, Régis ?
Alors, vaste question. J'ai envie de dire que tout film est politique, toute création est politique, puisque ça implique une subjectivité, un point de vue de celui qui fait le film. C'est Christian Metz, un théoricien du cinéma français des années 70, qui disait que du moment qu'on pose une caméra et qu'on choisit un cadre, qu'on choisit de filmer un plan, qu'on choisit un champ, c'est déjà un point de vue, c'est déjà un discours sur le monde, puisque on choisit de mettre quelque chose dans le cadre et on choisit de ne pas mettre autre chose, puisqu'on choisit de filmer tel motif, tel sujet, pas tel autre. Donc bien sûr, tout ça, ça découle de choix. Donc à la base même, le principe de cadrer, c'est déjà un point de vue sur le monde. Et bien sûr, pour ce qui est du cinéma, il y a toute la dimension production, censure, quel film on fait, comment on le fait. Donc c'est bien sûr, l'idéologie se retrouve à tous les stades, en fait, aussi bien au niveau de l'écriture que du choix de production, produire tel film et pas tel autre, hein. Il va de soi que, par exemple, des films sur la Révolution cubaine, par exemple, hein, il y en a très peu. Sur la baie des cochons, il n'y en a pas. Par contre, des films qui vont valoriser, si on prend le cinéma américain, hein, qui vont valoriser la Deuxième Guerre mondiale, les GI américains, il y en a beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a des choix déjà, qui sont au niveau même du sujet en fait, qui va être traité. Bon, en France, c'est pareil. Hein, sur la guerre d'Algérie, par exemple, on n'a pas eu de film pendant très très longtemps. Et donc on voit bien qu'il y a déjà une sélection à ce niveau-là. Donc une sélection qui vient de la part des producteurs le plus souvent, qui, sous prétexte de rentabiliser des films, vont promouvoir et choisir de produire tel film au détriment de tel autre. Et bien sûr, il y a toute la dimension aussi de la politique, la censure politique, qui n'est plus économique, mais donc politique, et qui passe par la censure d'État, la censure à tous les niveaux, en fait. Hein. Ça dépend des cinémas, après.
Tu parles de censure, mais y compris dans le monde libre, ce que je veux dire, c'est comment s'organisent justement ces grands courants politiques, parce qu'on voit bien que c'est une question de production, de financement. Mais il y a des grands courants idéologiques, visiblement, qui dominent le cinéma. Comment on pourrait les retracer? Et y a-t-il des courants dominants? Est-ce qu'on a
comment s'organise aussi peut-être des courants alternatifs, etc. Comment s'organise le champ cinématographique en général?
Alors, on peut essayer de diviser en fait les films, le cinéma et les films politiques en trois grandes tendances. Bon, prenons les films, plus simplement les films de propagande, donc des films de commande hein, par des États, la plupart du temps totalitaires, hein, puisque on a l'exemple de l'Union soviétique, du Troisième Reich en Allemagne, de l'Italie mussolinienne. Ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que les dictateurs, en fait, en tout cas les grands leaders des pays autoritaires, totalitaires, ont très vite senti en fait l'intérêt du cinéma. Hein. C'est les premiers en fait à avoir compris l'importance en fait du cinéma dans l'éducation des masses, mais aussi dans la propagande, bien sûr. Donc c'est vrai de Lénine, c'est vrai de Goebbels, c'est vrai de Mussolini, qui a d'ailleurs écrit un scénario. Bref, c'est vrai de beaucoup de dirigeants qui ont valorisé le cinéma de propagande. Donc il y a beaucoup d'exemples dans le cinéma soviétique, dans le cinéma allemand, etc. Ensuite, il y a une deuxième tendance, ce serait le cinéma donc, de divertissement, le cinéma grand public dans les pays dits démocratiques. Là, bien sûr, le discours politique est moins évident, disons. En tout cas, il passe par d'autres chemins, j'ai envie de dire. Si on prend le cinéma hollywoodien, bien sûr, pays de la liberté, donc a priori pas de censure, on voit en fait, si on étudie la question, que la censure elle est partout, et l'idéologie aussi, puisque c'est des films qui promeuvent en fait l'American way of life, hein, tous les films hollywoodiens a priori, et d'ailleurs ça marche très bien, puisque on voit bien aujourd'hui le succès du mode de vie américain, que ce soit le jeans, Coca-Cola, Planète Hollywood, Hard Rock Café, on pourrait en citer plein, enfin, Halloween, enfin des choses qui ont pénétré en fait nos sociétés par le cinéma aussi, essentiellement, en tout cas par la culture de masse. Il est intéressant de savoir aussi que, a priori, donc suivant les estimations, bon, difficilement vérifiables, mais trois quarts des images diffusées dans le monde sont d'origine américaine. Donc ça dit bien un petit peu une sorte d'impérialisme des images qui ne se présente jamais comme tel, mais qui fonctionne en termes de vision du monde et d'idéologie. Alors après, sur le cinéma hollywoodien, mais le cinéma français aussi, mais en tout cas, prenant le cinéma hollywoodien, on pourra en parler beaucoup, puisque bon, j'ai pas mal étudié la question, mais l'idéologie de ces films, elle est dans le choix de ce qu'on évoque, hein, mais aussi dans la forme même. Par exemple, tout simplement, l'idée de promouvoir chaque fois un héros, hein, un héros qui sera supérieur aux autres. Et ça, c'est un choix politique, qui est hérité du roman bourgeois, sans doute, mais par exemple, si on prend le cinéma soviétique des années 20, un cinéaste comme Eisenstein, lui, dans ses films, il n'y avait pas de héros. En tout cas, le héros, c'était la masse, hein, ce qu'il appelait le héros-masse. On voit bien qu'il y a un choix politique derrière. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir le star system, des héros, etc., que dans le cinéma, que c'est devenu normal, et alors même que ça pose question, c'est idéologique. Alors, c'est vrai aussi du happy end, hein, les fins heureuses, qui sont toujours là pour rassurer sur le système américain, qui punit les méchants et qui récompense les gentils. Bien sûr, d'ailleurs, il y a tout un discours, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Dans des films qui sont souvent d'ailleurs construits de façon très manichéenne, le bien et le mal, hein, ça c'est une évidence. Voilà, beaucoup de choses comme ça qui font que, bon, l'embellissement du réel, cette philosophie positive, optimiste, chère à l'American way of life. Bref, le cinéma est idéologique, et même le cinéma qui s'avoue le moins idéologique, hein, puisque le cinéma hollywoodien, c'est toujours prétendu comme un cinéma de divertissement sans message politique. Et enfin, donc, troisième grande catégorie, ce sont les films politiques, à proprement parler, qui se définissent comme politiques, les films militants, qu'on a pu appeler perpendiculaires, il y a beaucoup de termes sur ce cinéma-là. Donc ça, c'est un cinéma qui se veut en opposition à un système dominant. Et donc, c'est des films, si on prend les films militants, ils apparaissent vraiment en tant que tels, en tant que genre, après 68. Et c'est un mouvement qui est assez florissant aujourd'hui, puisque grâce à la caméra numérique, chacun peut faire des films avec des petits budgets. Donc c'est intéressant comme alternative à un discours dominant. Et donc c'est une troisième catégorie de films avec un discours politique là, assumé pour le coup. Donc on voit bien que toutes les formes de cinéma sont peu ou prou idéologiques et politiques.
Est-ce que tu dirais que la psychologisation des rapports sociaux à laquelle on assiste quand même dans tous les derniers films qu'on peut voir, que ce soit français, américain, etc., participe aussi de, comme dire, évolution sociale vers plus d'individualisme, vers moins de sens collectif. On a l'impression que, y compris dans l'espèce de cinéma grand public, qui a l'air comme ça très neutre et très, très proche des gens, il y a cette dimension politique également de l'évolution de la manière de filmer, de raconter les histoires, qui est de plus en plus psychologisée et qui a assez peu de sens social, finalement, en dehors de la petite vie des gens. Est-ce que ça aussi, c'est de la politique dans le cinéma? Est-ce que ça aussi, c'est de l'idéologie qui imprègne la manière de filmer, la manière de raconter la vie et les histoires des gens?
Je crois, en fait, que c'est pas nouveau. Hein. Je crois que ça a toujours été comme ça. Effectivement, la dimension psychologique, morale, c'est une façon d'évacuer, en fait, le sens social et politique de ce qu'on raconte. Mais c'est pas nouveau, je pense, ça a toujours été le cas. Et là aussi, je pense que c'est aussi un héritage du roman psychologique bourgeois du 19e siècle. Enfin, je note que les films récents, les films américains ou les films indépendants américains, par exemple, c'est vrai qu'ils ont vécu une sorte de nihilisme, en fait, hein, qui relève du postmodernisme. En fait, on dirait qu'ils n'ont rien à dire, en fait, c'est assez impressionnant. Et en ça, c'est vrai que c'est peut-être... je ne suis pas trop inspiré par cette question, en fait. Bon, je passe.
Merci Régis. Bon, si on revient un peu plus sur tes travaux plus récents, tu as publié « Cinéma et politique » chez Sulliver en 2007. Donc à travers le point de vue que tu exprimes, puis cinéma et idéologie donc sur Hollywood chez Sulliver également en 2008, où donc tu abordes plus directement la question du cinéma hollywoodien. Peux-tu un peu nous parler aujourd'hui de tes thèmes de réflexion plus actuels? Je sais que tu animes un blog qui s'appelle Le sens des images, et tu t'es même mis au court-métrage en montant La Révolution nue qui a été présentée au Festival du film militant d'Aubagne cette année. Peux-tu un peu plus nous décrire l'évolution de tes travaux, l'évolution de ton point de vue à la lumière de l'ensemble de ton œuvre?
Alors tout ça, en fait, relève de la même logique. Elle est assez simple pour moi, c'est que quand j'étais à l'université et que j'entendais parler de cinéma par mes enseignants, c'était assez ésotérique pour moi souvent. C'est-à-dire que la démarche dominante encore aujourd'hui à l'université, dans la presse, ce qui est partagé par tous, la pensée dominante à mon avis, et presque la pensée unique sur le cinéma, c'est... une approche qui est très auteuriste, c'est-à-dire on célèbre le génie créateur en dehors de toute considération sociale. Et on axe beaucoup les recherches sur la dimension esthétique des films. Hein. Et on voit bien que c'est un discours qui domine vraiment tout le champ. Moi, il se trouve qu'à la fac, ça ne me parlait pas vraiment, pas toujours. Par exemple, Jean-Luc Godard, j'ai détesté en fait ce qu'il faisait parce que je pense que les profs l'abordaient sous un angle qui n'était pas le bon, il me semble. Et j'ai redécouvert Godard plus tard. Et j'ai compris son cinéma parce que j'ai compris que c'est un cinéma politique. Ça a l'air idiot de dire comme ça, dit comme ça, mais on ne me l'avait pas dit, quoi, à la fac. Et on comprend mieux toute sa démarche au niveau formel, anti-impérialiste, etc. C'est très logique. Donc voilà, en fait, depuis mes études, en fait, j'ai développé une approche donc, du cinéma qui serait ancrée dans la réalité, en fait, la réalité sociale de tous les jours. Et c'est ça qui me parle, et c'est pour ça que j'aime le cinéma. Et exemple typique, c'est donc mon histoire politique du cinéma, d'ailleurs qui s'appelle Une histoire politique du cinéma, une parmi d'autres. En fait, ce qui m'a motivé, c'était justement d'aborder le cinéma avec un regard politique, en fait. Et ce qui n'a jamais été le cas. C'est assez étonnant. Bon, sur l'histoire du cinéma, on a des histoires économiques, esthétiques, techniques, ou les trois à la fois dans un même ouvrage, mais une approche vraiment politique, c'est assez rare. Et c'est vrai que c'est pas politiquement correct, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le terme, mais on a l'impression que depuis quelques années, c'est même pas mal de temps, le mot politique est un peu... Il est un peu entaché, en fait. C'est un peu un gros mot, hein, comme le mot lutte des classes, le mot le marxisme. Enfin, il y a des mots qui dérangent, j'ai l'impression, en tout cas au niveau des instances universitaires. Et moi, je suis allé à fond, quoi. C'est-à-dire que j'ai abordé, en fait, de façon synthétique et pédagogique aussi, toute l'histoire du cinéma, hein, en 100 ans d'histoire du cinéma, et à travers des périodes chronologiques, hein, et essayer de montrer que tous les grands mouvements du cinéma ont aussi une dimension politique. La Nouvelle Vague, par exemple, hein, on en parle comme... comme une grande avancée esthétique, etc., formelle, c'est aussi avant tout un cinéma assez réactionnaire, assez bourgeois, dans une certaine mesure, pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici, mais voilà, c'est intéressant de revenir sur le cinéma expressionniste allemand, qui, pour certains, aurait préparé l'avènement de Hitler, hein, dans les années 20. Le cinéma soviétique, bien sûr, montrait aussi qu'il est très manichéen. Le cinéma hollywoodien, bien sûr, le cinéma sous la guerre froide, le cinéma aujourd'hui. Donc tout ça, c'est... Voilà, faire une histoire du cinéma, mais avec un angle différent. Et je trouve que c'est assez cohérent, et avec l'idée, bien sûr, que tout film est politique. Donc voilà pour ce décryptage un peu que j'ai eu besoin de faire sur l'ensemble de l'histoire du cinéma. Et donc c'est un ouvrage qui est paru l'année passée, hein, chez Sullivert, qui s'appelle Une histoire politique du cinéma. Et j'ai poursuivi donc sur un autre versant, mais qui est très proche bien sûr, c'est la dimension idéologique des films. Et là c'est un travail que j'ai réalisé donc récemment et qui est plus axé sur comment en fait l'idéologie vient au film. Hein, ce que j'évoquais par rapport à des choix formels, hein, le Star System, le Happy End, et toutes ces questions-là, et voir comment, par exemple, dans cet ouvrage, donc Hollywood, cinéma et idéologie, je travaille par exemple sur les films de Tarzan, hein, montrer comment les films de Tarzan, bien sûr, ça véhicule une idéologie particulière. Oui.
Justement, c'est assez croustillant et très intéressant dans ce livre-là, cet exemple de Tarzan. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Alors, la démarche sur ce livre, quand même, c'est que... j'adopte pas la posture quand même de dire que le cinéma commercial, le cinéma dominant, le cinéma mainstream, il y a beaucoup de termes, en tout cas le cinéma hollywoodien, si on prend cet exemple, je ne suis pas pour dire que c'est un cinéma qui est aliénant, qui est abrutissant. Et un exemple comme Tarzan est assez parlant pour ça. Je pense que c'est un film qui, bien sûr, qui est idéologique, parce qu'il est réalisé par des hommes blancs, américains, etc., qui ont une vision très, très impérialiste, en fait, hein, de l'Afrique. Mais en même temps, c'est comme beaucoup de films américains et hollywoodiens, c'est des films qui vont plaire à un grand nombre de spectateurs. Mais aussi, je pense, parce que c'est des films qui sont riches, qui ne peuvent pas se résumer à une seule idée simpliste, qui serait « Tarzan, c'est raciste ». Ça l'est, bien évidemment, mais c'est plus riche que ça, je pense. Et Tarzan, voilà ce que j'essaie de montrer dans mon article, dans mon chapitre, c'est un discours qui est assez complexe. Je pense que Tarzan, par exemple, c'est une série qui apparaît dans les années 30, à une époque aussi de crise financière, de grandes mutations en fait, industrielles, etc., depuis les années 10-20. Et c'est aussi un cinéma qui rejette aussi une certaine forme de progrès technique, mais aussi une certaine forme de capitalisme, il me semble, puisque c'est un cinéma qui prône en fait, un retour à la nature et un certain rousseauisme. Et d'ailleurs, Tarzan se bat contre les braconniers qui veulent spéculer donc, sur les défenses des éléphants. En ça, c'est intéressant. Je trouve que voilà, c'est intéressant aussi de dire ça sur des films grand public qui ne sont pas aussi abrutissants qu'on le pense. Et les exemples sont multiples et riches. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une volonté derrière, il y a un point de vue qui est assez réactionnaire. Puisque, alors, c'est évident, le roi de la jungle, c'est un homme blanc. On pourrait définir longuement, mais bien sûr, les noirs sont montrés de façon très très péjorative, ou très peureux, ou très méchants. Et il y a une idée, bien sûr, derrière l'idée de l'idéologie américaine, de la frontière, de l'American way of life, du gendarme du monde. Bien sûr, il y a un sous-texte très, très riche. Mais c'est un exemple, comme j'en développe d'autres, qui me semble intéressant parce que je suis un peu agacé par cette idée très, très courante qu'on retrouve dans les élites, en fait, en général, mais aussi dans pas mal de milieux gauchistes, cette idée que la culture de masse est aliénante. Je pense que ce n'est pas aussi simple. Je pense que même si au départ, il y a une volonté... Il y a un point de vue très conservateur sur ces productions, hein, par ceux qui les font, en tout cas les producteurs. Je pense qu'à la réception des films, c'est pas aussi simple. Je pense que les gens aussi ne sont pas dupes et savent aussi négocier le texte filmique, en fait, hein, voire s'y opposer. Donc, c'est une question qu'on va développer peut-être, mais voilà, Tarzan, c'est un bon exemple. Il y en a d'autres, hein, je parle de Rocky, je parle de Rambo, par exemple. Je parle de l'autre dans le cinéma américain. C'est intéressant de voir comment l'autre, l'altérité... l'étranger, on va dire, est décliné tout au long de l'histoire du cinéma américain, depuis les Indiens, bien sûr, jusqu'aux Martiens, jusqu'aux communistes, et puis aujourd'hui les Arabes, hein, les islamistes. C'est intéressant, on retrouve toujours les mêmes choix narratifs en ce qui concerne, et plastiques, en ce qui concerne cet autre emblématique. Et du coup, c'est vraiment, là, ça montre vraiment l'idéologie, comment elle fonctionne. Hein. Par exemple, ce qui détermine l'autre dans le cinéma américain, c'est toujours le nombre. Hein. Une façon de filmer, toujours aussi en plan large, jamais individualisé, jamais de gros plans sur l'autre, hein, qu'il soit l'Indien ou le communiste ou le noir, d'ailleurs, j'ai oublié, pendant très longtemps, qu'il reste hors champ. Effectivement, du moment qu'on fait un gros plan, on rend la personne sympathique, on lui donne une âme. Or, l'autre est toujours justement filmé de façon extérieure, en fait, avec une distance, hein, qui nous le rend antipathique. Alors voilà, exemple, l'autre en général aussi, très souvent, a pour fonction dans les films d'étouffer le plan. C'est assez intéressant. Hein. Là, en fait, c'est l'envahisseur. Hein. Donc, il vient pour violer, pour voler, pour s'emparer du territoire qui est métaphoriquement incarné par le plan au cinéma. Si on prend les films de zombies, par exemple, c'est très intéressant comme métaphore, mais les films de zombies, c'est ça, c'est l'autre, c'est le zombie, hein, celui qui n'est pas comme soi. Et sa fonction dans le film, c'est vraiment de venir étouffer le plan, de remplir le plan jusqu'à étouffement, et bien sûr étouffer aussi les personnages et le héros. Et c'est vrai de beaucoup de films, c'est vrai des films d'Indien, par exemple, si on voit ces scènes typiques où on voit les pionniers valeureux qui défrichent les territoires vierges et qui sont attaqués par des opportuns, en fait, qui sont chez eux, c'est ça qui est drôle, mais, et avec ce réflexe toujours de créer ce cercle avec les caravanes, les chariots, pour protéger l'espace, en fait, hein, et repousser l'ennemi extérieur. C'est vrai aussi de beaucoup de films, La canonnière du Yangtze, par exemple, un film des années 70, avec c'est des Chinois, il me semble, dans le film. C'est vrai de tellement de films, des films sur la guerre du Vietnam, le film de John Wayne, par exemple, mais aussi un film comme Platoon, où l'autre est assimilé à la nature, hein, on ne le voit jamais, en fait, il est toujours présent, la menace continue. C'est vraiment intéressant de mettre en relation la vision de l'autre, mais aussi la mise en scène, comment il est filmé. Et on voit bien que ça joue beaucoup, en fait, qu'il y a un lien direct. Et voilà, c'est intéressant de voir comment, si on prend un film Alamo, par exemple, hein, encore de John Wayne, le grand réactionnaire du cinéma américain, mais il a réalisé ce film, hein, il y joue aussi. Donc dans Alamo, c'est typique, c'est donc des Texans qui doivent, pendant tout le film, lutter contre des assaillants mexicains, qui sont l'armée mexicaine officielle, qui sont des milliers de personnes qui tombent comme des mouches, hein, comme dans les films de Tarzan, les Noirs qui tombent comme des mouches, et voilà, qui doivent défendre le territoire national. Alors même quand on voit l'histoire, que ce soit la question des Noirs, la question des Indiens, la question des Vietnamiens, des Chinois, ou de peut-être pas des Martiens, mais... En tout cas, des Mexicains, on voit bien que c'est une relecture de l'histoire. C'est vraiment intéressant parce que, en général, c'est les Américains justement qui sont emparés de ce territoire. Et dans les films, c'est tout inversé, quoi. On montre en fait, au contraire, c'est les envahisseurs, c'est l'autre. Bref, voilà ce type de réflexion qui me passionne, et toujours avec ce souci de faire le lien avec l'aspect formel, la mise en scène, hein, puisque je viens quand même d'un cursus de cinéma, et aussi donc la dimension politique. Voilà. Et c'est vrai que c'est une chose qui n'est pas faite couramment. En général, on parle politique avec les films, des films, mais on ne parle pas, comment dire, il n'y a pas une exploration de la dimension politique et formelle des films. Je pense à des sociologues, des historiens, ou des étudiants en Sciences Po qui travaillent avec les films, mais comme prétexte, en fait, juste pour illustrer un débat, juste pour parler sur le film, sur les thèmes, mais ils ne s'intéressent pas assez à la forme du film, et je pense que c'est là où il y a un travail énorme à faire, montrer comment la forme est liée au thème et au discours.
K. Billy's Super Sounds of the 70s continues. You just heard The World as a Ghetto by War and Billy Don't Be a Hero by Bull Donaldson and the Haywoods. And if you're the 12th caller, you'll win 2 tickets to the Monster Truck Extravaganza being held tonight at the Carson Fairgrounds, featuring Big Daddy Don Bodine's truck, the Behemoth. The 12th caller wins on the station where the 70s survived. KBILLY.
Oh, I gotcha! Uh-huh, you thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it to you, come on!
L'émission Offensive Sonore se poursuit sur la grenouille. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en compagnie de Régis Dubois, chercheur, auteur, militant et apprenti cinéaste autour des questions de cinéma, politique et idéologie. Régis Dubois enseigne le cinéma à Marseille. Il a publié plusieurs livres analysant les liens entre cinéma et société, cinéma et politique. Notamment le cinéma des Noirs américains entre intégration et contestation au CERF en 2005, ou encore une histoire politique du cinéma chez Sulliver en 2007 et Hollywood, cinéma et idéologie en 2008, toujours chez Sulliver.
Justement, je voudrais revenir sur un élément extrêmement intéressant que tu as évoqué tout à l'heure, c'est de dire que c'est allé un peu vite que de dire que tout cinéma de divertissement ou culture de masse est aliénante. Parce qu'il me semble que dans tes derniers travaux, tu mets beaucoup l'accent sur la réception, donc le rôle du spectateur, sa place, la manière dont il donc s'approprie et négocie le style filmique, tu disais. Justement, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur ce point de vue-là, parce que ça me paraît extrêmement intéressant d'envisager le cinéma sous cet angle-là, et surtout sa dimension politique.
Alors, actuellement, par exemple, je commence à m'intéresser un peu au cinéma populaire français, au grand succès du cinéma français. Alors, je partais avec un a priori en me disant, bon, c'est un cinéma qui est un peu débile, hein, des grosses comédies franchouillardes, grivoises, poujadistes. Je pense que beaucoup de gens ont cette idée-là de ce cinéma-là. Donc, par exemple, j'ai travaillé, j'ai écrit un article pour Contretemps, là, qui va paraître en janvier, sur les ch'tis, hein, Bienvenue chez les ch'tis. J'ai intitulé ça Bienvenue chez les prolos. Le cinéma populaire français, la lutte des classes. Voilà, c'est typique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aborder la culture de masse, le cinéma commercial, le cinéma populaire, sans a priori et sans mépris. Et effectivement, quand on a ce point de vue, on se rend compte que c'est un cinéma, si on prend un film comme Bienvenue chez les Ch'tis, qui n'est pas si réac que ça, et loin de là même. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi que ça plaît. Je veux dire par là, c'est que tous ces films ont un intérêt certain, une richesse certaine qu'il faut apprendre à regarder, à comprendre. Parce que ces films qui ont un grand succès populaire. Alors, soit on part du principe que les gens sont débiles, et donc effectivement, les gens sont débiles, ils aiment des films débiles, donc ces films ont du succès. Soit on a une approche un peu différente. Et j'essaie d'avoir cette approche-là. D'autant qu'il me semble qu'en ayant ce discours de dire que voilà, les masses sont aliénées, hein, par la culture de masse, par les masses médias, je pense qu'on joue, enfin, si on est de gauche en tout cas, en ayant cette posture, on joue le jeu des élites. Et du coup, je pense qu'on se trompe, quoi. Il me semble vraiment qu'on se trompe. Parce que la culture, c'est politique. Il y a un enjeu qui se joue tous les jours dans les relations sociales. Un enjeu culturel, en fait. La culture, c'est politique. Il y a une culture d'élite et il y a une culture populaire. Je ne parlerai pas de culture ouvrière, de culture prolétarienne. Je pense que c'est... est-ce que ça existe déjà? Est-ce que ça existe encore? J'en doute, en fait. Je pense vraiment qu'il y a une culture populaire qui est liée aussi à la culture de masse, hein, parce qu'il y a des échanges constants, et une culture donc d'élite, hein, qui est reconnue, qu'on trouve dans les musées, qu'on trouve dans les écoles, qu'on nous enseigne et qu'il faut maîtriser pour réussir socialement et professionnellement, je pense. Et là, il se joue vraiment une lutte des classes dont on ne parle jamais. Et c'est vrai que beaucoup de gauchistes sont issus des élites, en tout cas, ont étudié, ont acquis cette culture légitime, comme dirait Bourdieu, et pense que c'est la bonne, mais je pense qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise, hein, je pense qu'elles se valent tous, sauf qu'aujourd'hui, il y a vraiment un mépris généralisé de la part des élites pour la culture populaire, pour les films populaires, pour les films commerciaux, pour les films hollywoodiens, et une valorisation d'une culture sérieuse, intelligente, d'élite. Voilà, je pense qu'il y a erreur là, il y a mal donne, et je pense qu'il faut vraiment repenser tout ça. Alors, je suis pas le seul à le penser, hein, c'est un courant qui est notamment issu des cultural studies anglaises. Pour aller vite, le précurseur, l'auteur, le livre en fait qui va manifester un peu de cette approche qui repense complètement les sciences sociales, c'est un ouvrage qui s'appelle La culture du pauvre, un livre écrit par Richard Hogarth, qui est lui-même issu des classes populaires anglaises et qui dans les années 50 donc a étudié la culture du pauvre en fait. Hein. Mais avec justement sans mépris de l'intérieur. Hein. Et là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on a une toute autre vision en fait de ce que c'est la culture populaire. Extérieurement, on peut considérer comme pauvre, comme aliénant, etc. Ça l'est pas en fait. Il nous montre bien que ça l'est pas. Et donc, je pense que c'est un courant de pensée qui s'est développé au cours des années 60, 70, qui est devenu presque hégémonique aux États-Unis. Hein, d'ailleurs, il faut le questionner. Mais au départ, c'est en tout cas les cultural studies anglaises sont très très intéressantes pour ça, parce que l'idée c'est de déplacer le point de vue hégémonique en fait du centre vers les périphéries. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi les périphéries? C'est déjà ceux qui sont issus de la culture populaire. et qui ont une sensibilité, une point de vue, une façon de penser le monde qui est différente des élites. Et du coup, ce qui fait que les élites, quand ils se penchent sur la culture populaire, ils n'y comprennent rien, puisque c'est pas leur code. Bon, c'est aussi les femmes, par exemple, hein, qui sont plutôt en périphérie par rapport à une pensée du centre, sont aussi les noirs, par exemple, les immigrés, les gays, et lesbiennes. Voilà, c'est une façon de penser la culture, mais d'un point de vue différent. Et ça apporte beaucoup, en fait, notamment aux sciences humaines. Et dans le cinéma aussi, ça apporte beaucoup de choses intéressantes. Et pour revenir à mon sujet donc, d'études sur un film comme Bienvenue chez les Ch'tis, il me semble qu'on peut très bien avoir cette posture un peu en disant oui, c'est un film, bon, une bonne comédie, sympathique, drôle, mais sans intérêt plus que ça. Je pense au contraire que c'est un film qui parle aux masses, qui parle aux classes populaires, puisque c'est un film, pour moi, qui valorise les classes populaires. Et c'est intéressant, moi, j'aime beaucoup étudier souvent la réception dans la presse, notamment la presse savante, hein, la presse élitiste, parce que souvent, ils passent à côté du message, je pense. Alors, j'ai pas la prétention de... Bon, il se trouve que je viens d'un milieu populaire, donc peut-être que j'ai un regard différent, mais c'est intéressant de voir que cette presse-là... ce qu'on retrouve très souvent, c'est de dire, voilà, c'est un film qui... Bienvenue chez les Ch'tis, qui valorise la culture du Nord, la culture des Ch'tis, contre la culture du Sud. Hein. Donc, un département, une région du Nord qui est mal aimée, qui est reconsidérée par ce film, et du coup, c'est très positif. Mais en fait, ce que la plupart ne voient pas, je pense, et que moi, ce que j'y ai vu, c'est que c'est une valorisation surtout des classes populaires. Puisque le film fonctionne vraiment comme ça, avec un cadre du Sud, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, interprété par Kad Merad, qui est muté dans le Nord. Donc lui, il est cadre, on voit bien dans son contexte de vie qu'il est plutôt issu de la petite bourgeoisie, et donc il va intégrer un milieu assez populaire, qui est donc dans le Nord, et il va sympathiser avec un petit employé de la Poste, hein, parce que lui, il est cadre de la Poste. Et tous les codes renvoient vraiment à cette opposition entre le bourgeois et le prolo, et tout ça finit à l'avantage quand même du prolo, même si le bourgeois est sympathique. Donc tout ça pour dire que, voilà, c'est ce qu'on appelle le sous-texte, en fait, c'est-à-dire toute cette complexité des films, et tout ce qu'ils véhiculent, et que parfois on ne le voit pas, en fait, mais que ceux qui reçoivent le film le comprennent très bien. Je pense que ce film en particulier a un pouvoir de plaire, en fait, et de positiver, et de valoriser, en fait, la culture populaire. Et je pense que les gens qui ont fait un succès à ce film, et ils sont nombreux, c'est un Français sur trois qui allait voir ce film. Alors, il n'y a pas que des prolos, bien sûr, hein, mais il se trouve que la différence, ce qui fait un grand succès populaire, c'est quand les classes populaires vont au cinéma. Parce que les classes moyennes, bourgeoises, vont très souvent au cinéma. Les classes populaires, ils vont très peu. Donc, un grand succès populaire, c'est vraiment quand les classes populaires vont au cinéma. Et il se trouve que les grands succès populaires, c'est La Grande Vadrouille, ce sont des films comme Taxi 2, par exemple, comme Astérix et Cléopâtre, des grosses comédies, soit, mais aussi des films qui sont aussi intéressants, à mon avis, de ce point de vue, c'est-à-dire des films qui encouragent aussi, qui valorisent une culture populaire qui n'est valorisée nulle part ailleurs, en tout cas pas dans les musées.
À ce discours, on pourrait faire deux critiques. On pourrait aussi dire que Bienvenue chez les Ch'tis ou Astérix sont des films profondément démagos et poujadistes. Effectivement, ça valorise, en tout cas pour Bienvenue chez les Ch'tis, une forme de culture populaire. Mais le happy end de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est qu'en se parlant, finalement, on peut adopter un langage commun entre bourgeois et prolo, on peut se comprendre, et on peut très bien vivre ensemble sans absolument bouger les rapports hiérarchiques entre le bourgeois et le prolo. Et deuxième petite critique qu'on pourrait apporter à ce type de discours, c'est que Bienvenue chez les Ch'tis ou Astérix, ça n'a absolument pas été produit ni réalisé par des prolos. Là, tu parles vraiment de la réception, donc tu t'intéresses vraiment à la réception du film, mais c'est la culture populaire, à la limite, ça serait donc cette espèce de négociation et de relecture. Mais quand on parle de culture prolétarienne ou de culture ouvrière, c'est ce qui est autoproduit par la classe elle-même.
Alors ça appelle beaucoup d'explications là. Disons pour commencer que je ne dis pas que ces films sont révolutionnaires, loin de là. Et d'ailleurs le thème de l'union sacrée entre le bourgeois et le prolo qu'on retrouve dans tous les films, entre, par exemple De Funès et Bourville, l'un incarnant toujours le bourgeois, l'autre le prolo. Bien sûr qu'il y a cette union sacrée, on le voit dans Le Corneau par exemple, on le voit dans La Grande Vadrouille. Bien sûr que ce ne sont pas des films révolutionnaires, la question n'est pas là. Objectivement, ce sont même des films conservateurs, on est bien d'accord. Mais moi, je parle de la réception, c'est-à-dire qu'au-delà d'un discours, une œuvre est créée par le spectateur, et c'est lui qui va aussi l'interpréter. Et je pense que les classes populaires ne sont pas dupes de ce qu'on leur donne à consommer. Elles font aussi de choix. C'est justement Stuart Hall, qui est un autre penseur anglais sur les cultures, elles se disent, hein, qui dit bien qu'il y a une négociation, en fait, du spectateur avec un film, par exemple, une émission de télé, et des fois une opposition. En tout cas, c'est jamais comme ça, et c'est pas des gens passifs qui consomment bêtement ce qu'on leur donne, et qui prennent tout, ils trient, ils y trouvent aussi ce qu'ils y veulent. Et c'est typique, ce film, Bienvenue chez les Ch'tis. Je pense que c'est un film qui, moi, en tout cas, ce qui m'évoque, et je trouve qu'il est très positif, il est très salutaire, il est bien, parce que il met au premier plan la culture populaire. C'est net, hein. Dans le film, vous verrez bien les goûts, par exemple, alimentaires de l'un et de l'autre. L'un, c'est la bière, le sandwich frites. Enfin, ça, pour quelqu'un qui est issu de la classe populaire, on y est sensible. On voit bien que, pour une fois, et contrairement à ce qu'on entend tous les jours dans tous les médias, qui tape toujours sur le bof bedonnant qui fait ses courses à l'hypermarché et qui abrutit devant TF1, voilà, cette image que je supporte plus, elle est fausse, c'est pas vrai, arrêtons. Les bofs, les prolos, comme on les appelle, ils sont pas idiots, ils sont pas plus bêtes, ils sont moins libres et après, ils ont un sens commun. Et bon, moi c'est ça ma bataille, parce que je suis vraiment agacé, parce que j'ai aussi adopté cette posture, hein, au cours de mes études, j'ai adopté un discours dominant et je trouve qu'il est un peu simpliste, voilà. Alors ça, c'est la première chose, voilà. Bien sûr que c'est des films, mais boujadistes, bon, après, il faut définir le terme, etc. Par ailleurs, autre chose, c'est pas des films faits par des gens issus de la classe populaire. On peut en discuter aussi longuement. Il se trouve quand même que le cinéma, historiquement, c'est un art populaire. D'ailleurs, dans les premiers temps, hein, il a fallu très très longtemps qu'il soit considéré comme un art, qu'il soit adoubé par les bourgeois, reconnu vraiment comme un art légitime. Pendant très longtemps, c'était un art populaire qui se consommait sous des chapiteaux, dans des foires, par vraiment la classe populaire essentiellement. Hein. Les bourgeois sont venus très tard au cinéma, en tout cas dans les années 15, 20 et même beaucoup plus tard après. Donc une chose, après si on prend Bienvenue chez les Ch'tis par exemple, voilà, qui a écrit le film, qui l'a réalisé, c'est Danny Boone. Danny Boone, je ne sais pas en fait ce que faisaient ses parents, mais c'est un gars qui vient du Nord, hein, ce n'est pas un Parisien. Il est kabyle, d'origine kabyle, donc il a une vision aussi qui n'est peut-être pas dans la norme. Son acteur principal, qui ne joue pas un arabe dans le film, mais c'est Gad Merad, qui est aussi originaire du Maghreb. Je veux dire, c'est pas non plus un cinéma de bourgeois, quoi. Hein, on n'est pas dans l'art contemporain, on n'est pas dans la musique classique, on est dans un art populaire qui est fait par des acteurs, par des réalisateurs, qui sont des gens ordinaires aussi dans l'absolu, je veux dire, qui viennent aussi de milieux ordinaires, quoi. Et donc le cinéma, à mon avis, le cinéma, c'est comme le rock. Je pense que ce sont des arts du XXe siècle, ce sont les deux plus grandes expressions artistiques du XXe siècle, hein, le rock et le cinéma. Et je pense que c'est des arts de masse, c'est la culture de masse, quoi qu'on en dise. Après que certains bourgeois aient trié entre le bon cinéma, le cinéma d'auteur, art essai, et le mauvais cinéma, ça c'est leur problème. À mon avis, c'est tout à fait symptomatique d'un besoin de toujours de se distancier, de se distinguer, comme dirait Bourdieu dans son livre La Distinction. Le rock, c'est pareil, on a des intellectuels et des snobs du rock, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, j'ai vraiment cette vision, moi, de l'art, c'est-à-dire un art qui aurait été au service de la religion et de la noblesse jusqu'au 18e, ensuite un art bourgeois, hein. Il n'y a qu'à voir l'apparition du roman bourgeois au 19e, le roman était considéré beaucoup de mépris par les élites, hein, avant ça, mais les bourgeois arrivent au pouvoir, hein, après la Révolution française, on va valoriser un art bourgeois dans le roman, donc je pense que le 19e siècle, c'est l'art de la bourgeoisie, hein. On voit bien que l'apparition de la photo, même le cinéma, enfin ça c'est... Et le 20e siècle, je pense que c'est on le verra à l'avenir, hein, mais avec le recul, mais je pense que c'est le siècle de la culture de masse, qui est une expression, à mon avis, la plus riche de ce siècle, qui est extraordinaire. Et donc voilà, ce qui gêne les élites, en fait, c'est que leur précaré, en fait, leur pouvoir culturel, tout ça, en fait, ils sont en train de le perdre, parce que les masses vont pas avoir tout la culture aristocratique ou bourgeoise qu'on trouve dans les musées, je veux dire, c'est pas la culture des populeux. Et effectivement, ce qui gagne aujourd'hui, c'est la culture de masse, qu'on dit aliénante, commerciale. C'est ça qui fait des grands succès, hein. C'est pas des petits films intimistes. Et ça dérange profondément les classes dominantes, qui, bien sûr, perdent de leur pouvoir. Bref, voilà, c'est ma vision un petit peu de l'histoire de l'art.
Bon, sur la perte de pouvoir des élites via la culture de masse, ça sera un long débat également. Ce qu'on peut dire que c'est aussi la culture de masse à travers des films dont le sens est relativement... peu évident en termes de comme tu dis, hein, il y en a qui sont très, très conservateurs en général. On peut dire que c'est aussi la culture de masse, c'est aussi un élément de contrôle social certain, mais bon, ça serait un autre long débat. Mais justement, ça serait intéressant de comparer, tiens, la production de Bienvenue chez les Ch'tis à la production de Mestrine. Est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que tu as un point de vue un petit peu là-dessus ? Est-ce que, quelque part, est-ce que ça ne serait pas un fantasme sur la révolte prolétarienne par des bourgeois en tournant ce film-là ? Enfin, justement, est-ce que ça ne serait pas exactement le pendant de Bienvenue chez les Ch'tis ?
Alors, je pense que ton exemple, en fait, malheureusement pour toi, il est très mal choisi. C'est qu'en l'occurrence, Mestrine est réalisé par un cinéaste qui s'appelle Richer. Et Richer, c'est un cinéaste que je suis parce que je l'apprécie particulièrement. Alors voilà, juste le profil pour parler de ce cinéaste. Et c'est pas étonnant qu'il ait réalisé ce film d'ailleurs. Donc, j'ai oublié son prénom soudain, mais Jean-François Richer, je crois. C'est un cinéaste, c'est un des rares cinéastes français, du jeune cinéma français, qui vient vraiment de la banlieue, quoi. Qui a été ouvrier, et qui est pétri de culture marxiste, hein, qui encense Eisenstein, le cinéaste soviétique de l'âge d'or, voilà, et qui fait des films en fait marxistes. Et tous ces films, hein, le premier c'était État des lieux, un petit film sur la banlieue, mais vraiment un film très politique, très marxiste. Ensuite, il a fait Ma cité va craquer, qui a beaucoup déplu aux instances politiques. Il a failli ne pas sortir. Enfin, c'est un film qui est très sulfureux, parce que c'est un film qui oblige le spectateur à prendre position. Alors, je vous rappelle peut-être, c'est un film sur la banlieue, hein, sur les émeutes en banlieue. C'est un peu l'anti-haine, hein, le film de Kassovitz. C'est un film qui nous oblige à prendre position, et qui est un film très dérangeant, et que moi, j'apprécie vraiment. Et qui est plein de références politiques, marxistes, révolutionnaires. Ensuite, il a fait Assaut sur le 13. C'est un remake d'un film de Carpenter, mais justement, il a inversé l'opposition entre les flics et les voyous, en fait, et ça donne vraiment un film politique, là aussi. Et donc, son quatrième film que j'attendais, on pourra en discuter longuement, mais le dernier film que j'attendais de lui, c'est sur Mesrine. Bon, moi, ce que je vois, c'est que c'est un film qui plaît à la banlieue, hein, comme des films comme Scarface. Il y a des films qui sont réappropriés en fait par la banlieue, et ça pose question. Alors bien sûr, on peut dire ils sont idiots, etc. Ils comprennent pas que Scarface c'est un film qui célèbre le capitalisme, etc. Mais qui dit ça en fait? C'est toujours le même point de vue qu'adopter. Je pense que ces films ont aussi un discours intéressant. Et ce que j'ai pu entendre d'ailleurs, c'est que un film comme Mesrine, peut-être effectivement, il parle à certaines personnes, des personnes qui sont en rupture avec l'autorité, avec le pouvoir politique, etc. Et effectivement, de voir à l'écran un gangster, donc alors bien sûr qu'il est macho, etc. Je veux dire, après, bien sûr, personne n'est blanc, blanc ou noir, bien sûr, ça pose des vrais problèmes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est comment, en fait, on se réapproprie une œuvre, et comment ça répond aussi à un horizon d'attente. Voilà, je pense que Mesrine, ça répond. Après, le film, moi, j'en pense pas grand-chose, je trouve que c'est un film qui est très froid, mais là aussi, je pense que c'est un choix vraiment de mise en scène du réalisateur, qui a voulu garder sa distance avec le personnage, pas créer trop de sympathie avec lui, et peut-être aussi traduire à l'image ce qu'était le personnage, quelqu'un qui avait pas de sentiments. Après, est-ce que c'est complaisant ou pas, je sais pas. J'ai pas trop d'avis là-dessus. J'ai vu que le premier épisode. Hein.
Alors quelque part, ton analyse de la réception du cinéma, c'est un peu comme s'il y avait des sortes de détournement d'usage, enfin, du cinéma. C'est-à-dire que là, tu passes vraiment une espèce d'innovation idéologique au niveau de la réception par rapport à ce qu'a été voulu faire au départ, qui n'était pas forcément l'intention du producteur ou du réalisateur. Parce que c'est vrai que, par exemple, dans les films de Richer, c'est vrai que j'étais un peu rapide en le traitant de bourgeois, je crois. Je me souvenais plus que c'était lui. Mais pour avoir justement vu ses premiers films, c'était aussi un total fantasme du nouveau sujet révolutionnaire à travers le jeune de banlieue, qui était typique du milieu autonome extrême-gauche des années 80-90, qui a voulu absolument voir dans l'émeute de banlieue et le jeune casseur le nouveau sujet révolutionnaire. Donc peut-être qu'il a gagné un peu en maturité en tournant Mérine, en prenant un peu de recul, hein, si tu le dis. Bon. Mais effectivement, c'est quand même une grosse critique qui a été faite à Richer, justement en voulant faire du cinéma et politique, mais du coup en projetant un fantasme assez étonnant sur les jeunes de banlieue. Mais bon, il n'était pas le seul à l'époque. Hein. Pour continuer un peu sur ton travail, donc autour je rappelle donc que tu fais un blog, hein, qui s'appelle lesensdesimages.com, donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu en termes de contenu et dans quoi ça poursuit tes travaux, tes axes de recherche et de réflexion. Donc j'aimerais que tu nous parles de ça et j'aimerais qu'on aborde ensuite la question peut-être du mouvement social. En quoi le cinéma peut être peut supporter le mouvement social? Est-ce qu'il peut être un élément de mouvement émancipateur?
C'est beaucoup de questions, d'autant que je voudrais juste faire une remarque par rapport à la discussion qu'on a. C'est que là, je joue un peu le mauvais rôle en disant que ce n'est pas des films si abrutissants. Je pars du principe quand même, et je l'ai étudié dans mes livres, que le cinéma hollywoodien, le cinéma dominant, est conservateur, est réactionnaire. Le problème ne se pose pas. Sa fabrication, d'ailleurs, le capital reste encore entre les mains des producteurs, et donc, bien sûr. Non, c'est juste que je pose la question, et ça donne des réponses intéressantes. Voilà, juste déplaçons un peu le point de vue, et on a la modestie de se dire qu'on ne maîtrise pas les codes, et que la culture populaire, c'est une culture à part entière. Et qu'elle a ses codes, sa vision du monde, sa sensibilité, et que c'est comme les femmes, la question des femmes, je pense, moi, j'ai pas la prétention en tant qu'homme de comprendre le point de vue d'une femme, quoi. Je pense qu'il faut aussi admettre ça. Je suis pas noir non plus, je suis pas immigré. Voilà, je pense que je suis pas gay, par exemple. Et bien que je puisse aussi avoir un avis sur tout ça, hein, sur ces questions-là et sur les productions de personnes issues de ces minorités, il n'empêche que il y a un moment aussi, il faut admettre qu'on ne maîtrise pas tout. Et c'est vrai que la pensée universaliste des Lumières, qui est partagée par les élites aujourd'hui, par toutes les élites, de gauche ou de droite, bon, elles ont la prétention d'avoir un avis sur tout. Moi, je trouve ça un peu déplaisant. Voilà. Moi, je pose juste la question. Alors maintenant, pour revenir sur, donc sur mon travail, oui, sur le blog que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Donc ça, en fait, c'est juste le sens des images, blogvie.com. Mais bon, c'est facile à trouver sur Google. Oui, en fait, c'est ça. En fait, je partage en fait mes impressions sur des films, sur des livres, donc des livres de cinéma. Je mets aussi en ligne des analyses d'images, par exemple, puisque j'aime bien la démarche de Barthes, Roland Barthes, la sémiologie d'image. C'est ça que j'essaie de faire dans toutes mes recherches. C'est voilà, travailler vraiment sur ce qu'un signe a comme sens premier et comme sens secondaire. Et c'est là où c'est intéressant par rapport à la réception. C'est qu'il n'y a pas un seul discours. Une image ne parlera pas pareil à telle ou telle personne. Un film, c'est pareil. Moi, j'ai eu de grandes discussions sur des films. Est-ce que Forrest Gump, c'est un film conservateur ou est-ce que c'est un film progressiste? Est-ce que Matrix, c'est un film conservateur ou un film progressiste? Moi, c'est des films qui m'interpellent, que je trouve particulièrement intéressants parce que riches. Et le cinéma hollywoodien est souvent de plus en plus très riche, très intéressant. Voilà, bref. Sur ce qui est du cinéma et du mouvement social, moi, je note juste que bon, il y a toujours ce cinéma perpendiculaire, comme on a pu l'appeler, cinéma parallèle, qui est un cinéma fait par des militants, en fait, ou des gens du peuple, hein, tout simplement, avec des petits moyens, en dehors des circuits commerciaux, donc diffusés dans des petites... des arrière-salles de partis politiques, de syndicats, des facs, des prisons, je ne sais quoi, et dans les festivals, donc ce qu'on appelle le cinéma militant. C'est une alternative très intéressante, et depuis peu, en fait, moi-même, j'ai réalisé des films. Et il se trouve qu'on vit une époque assez excitante pour ça, pour deux choses déjà, parce qu'on a aujourd'hui du matériel numérique, donc des caméras pas très chères, on peut faire du montage, donc... par ordinateur, avec des logiciels très simples qu'on peut télécharger gratuitement. Donc des choses que je ne pouvais pas faire il y a encore 10-15 ans, hein, quand je voulais faire des films en VHS, c'était très compliqué, il fallait des tables de montage. Là, tout le monde peut faire un film. Et par ailleurs, on a... parce qu'avant, le problème de faire un film, c'était possible avec la vidéo, mais pour le diffuser, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a Internet, et c'est effectivement un moyen de diffusion des films très très intéressant et démocratique. Et d'ailleurs, donc sur mon blog, j'ai créé une rubrique là où j'essaie de valoriser, de promouvoir des films militants qu'on trouve sur Dailymotion ou YouTube. Et c'est très intéressant. Et ça, je pense que c'est un travail à faire pour voilà. Je pense que Internet, c'est aussi une forme de contre-pouvoir. Alors bien sûr, après c'est aussi surveillé, etc. Mais dans l'absolu, c'est une façon aussi de voir autre chose qu'on voit pas à la télé, tout simplement, dont les films militants. Et après, il y a les festivals, dont le festival d'Aubagne. Qui s'est déroulé donc en octobre et qui est aussi très très intéressant, qui dure une semaine avec n'importe qui peut envoyer son film. Hein. Alors c'est intéressant, il n'y a pas de prix, hein, parce qu'il n'y a pas d'assez intéressant la démarche. Mais donc moi-même j'ai diffusé un film et j'ai vu beaucoup de films très très intéressants. Voilà, donc sur le cinéma et mouvement social, effectivement, on est un peu dans le rêve en fait de Godard. Hein. Godard étant l'un des premiers dans les années 70 à s'intéresser à la vidéo. On est un peu dans l'aboutissement de ça en fait. Aujourd'hui, quasiment tout le monde peut faire un film. Et donc, faire valoir son point de vue. Et surtout, ce qu'on voit dans les films militants, et ça qui est intéressant, c'est qu'on voit les gens ordinaires, en fait. On voit ceux qui luttent, les ouvriers, on voit les immigrés, les sans-papiers, les marginaux en général, ceux qui sont mis à la marge. Et c'est ça aussi, le cinéma militant, c'est donner la parole aux gens ordinaires. Hein, et qui ont des choses toujours très... Enfin, pas toujours, mais dans ce que j'ai pu voir, très, très intéressantes à dire. Voilà, arrêtons de penser qu'il y a des gens qui sont habilités, des spécialistes qui sont habilités à parler des questions sociales. Je pense que ça appartient à tout le monde. Je pense que si on écoute un peu vraiment ce qu'on va dire les gens, c'est censé dans du bon sens.
Mais l'idée qu'il y a un moyen de diffusion important sur Internet de films, etc., c'est bien, mais si tout le monde se colle devant son écran à regarder des vidéos, tout le monde va grossir et plus pouvoir bouger le cul pour aller dans une manif. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une... quelque part un côté aliénant des écrans et du fait de fantasmer la vie et le mouvement social à travers un tube cathodique?
C'est pas incompatible, on peut s'informer, se cultiver par la télé et puis sortir aussi. Moi personnellement, j'ai grandi dans un milieu où il n'y avait pas de livres et la télé était pour moi... j'ai vu des documentaires, j'ai vu des films, ça a éveillé ma curiosité. Donc voilà, je pense que la télé n'est pas diabolique et vive la télé et vive Internet. Non mais plus sérieusement, c'est que c'est vrai que cette question de pratique culturelle, de politique est intimement liée. Et je voudrais juste finir sur ça, l'idée que ce que je repère, en fait, et je pense que c'est problématique, c'est que notre gauche, en fait, la gauche, et même l'extrême gauche, essentiellement, en fait, c'est coupé des masses. C'est coupé culturellement des masses. Et je pense que c'est un vrai problème politique. Il faut repenser la gauche politiquement et culturellement. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que le PC, à une époque, est parvenu à cultiver, à entretenir, à valoriser cette culture populaire. Et je pense que la gauche d'aujourd'hui, qui est essentiellement l'extrême gauche, hein, je pense à la LCR par exemple, et c'est vrai que c'est des partis qui sont plutôt fréquentés par des élites, par des profs, par des intellectuels. Et il y a, à ma connaissance, très peu, enfin assez peu, en tout cas il y avait encore quelques années, assez peu de jeunes issus de l'immigration, de jeunes de banlieue, d'ouvriers, de petits employés. Et effectivement, et ça pose problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la révolution sans les masses. Autrement dit, je pense qu'il faut reconsidérer la façon de communiquer en politique et de penser la culture. Et c'est vrai que je note que la plupart des gens engagés à l'extrême gauche maîtrisent la culture d'élite et, à mon avis, ont un certain mépris pour une certaine culture de masse. Et ça, c'est problématique, puisqu'ils se coupent là des masses, littéralement. Peut-être je finirai par cet ouvrage-là.
Le Varé,
c'est ça, hein, Le Varé. J'ai oublié Michel, non ? Jean-Pierre Le Varé, des cinémas aujourd'hui. Jean-Pierre Le Varé, donc, dans son ouvrage Putain d'usine, il parle de ça, en fait, de cette coupure qu'il y a entre les masses, les ouvriers en l'occurrence, qui travaillent dans une usine, hein, et les partis politiques. Et il dit bien, en fait, et tous, hein, que ce soit extrême gauche, bien sûr, bon, je ne parle même pas de la gauche, hein, la gauche caviar, c'est même pas la peine d'en parler, mais anarchistes, trotskistes, il pose bien le problème. Il dit, mais les ouvriers, ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas la dictature du prolétariat. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas travailler. Il y a un problème là de communication, à mon avis, entre l'avant-garde de la révolution, hein, ceux qui se prétendent à l'avant-garde, et les masses, quoi. Et je pense qu'il faut renouer le lien. Voilà.
Merci Régis.
Offensive sonore touche à sa fin. Avant de rendre l'antenne, sortez vos agendas pour noter quelques rendez-vous. Tout d'abord, samedi 20 décembre, donc cet après-midi, les rencontres Place Publique organisent une rencontre intitulée « La terreur à l'heure de l'obsession sécuritaire, cinéma de genre et évolution sociétale ». Dans la droite ligne de cette émission, l'idée est de proposer un discours sur un objet populaire très codé, le film d'horreur. Dans ce cadre, Jean-Baptiste Farkas, artiste, Daniel Lindenberg, historien des idées, et Jean-Baptiste Toré, historien et critique de cinéma, interviendront sur cette thématique à partir de la diffusion de plusieurs extraits de films d'horreur. C'est à 14h30, ça se passe au Pêle-Mêle, 8 Place aux Huiles, dans le premier à Marseille. Nous rappelons que cette rencontre est interdite aux moins de 16 ans. Mardi 23 décembre aura lieu devant le tribunal de grâce un rassemblement à 10h à l'appel du collectif Justice pour Hakim. Abdelhakim Hajimi est un jeune grassois de 22 ans, mort en mai dernier suite à une interpellation musclée de la police de Grasse. Pour plus d'infos sur le comité de soutien et sur les circonstances de la mort de Hakim et la mobilisation à Grasse, vous pouvez vous rendre sur le site www.regardavue.com. Ce rassemblement sera suivi d'une conférence de presse en présence du comité de soutien Justice pour Hakim Hajimi et des porte-paroles de la campagne nationale contre les pratiques policières mortelles dans le cadre du collectif Police, personne ne bouge. Enfin, piqûre de rappel, tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, de 17h30 à 18h30 sur le Vieux-Port, continuent les rondes des femmes en noir pour la Palestine. La prochaine ronde aura donc lieu le mercredi 24 décembre à 17h30 sur le Vieux-Port, de bon augure pour se mettre dans l'ambiance de Nazareth, sans mauvais jeu de mots. Pour joindre les femmes en noir, écrire à Mille Babor, 61 rue Consola, dans le 1er à Marseille.
Le poste à transistor est à l'honneur car le goût de la musique ravage les foules.
La radio numérique terrestre, vous en avez entendu parler ? C'est ce qui vise à remplacer la bande FM d'ici quelques années. Sauf que cette transition met en danger toutes les radios associatives non commerciales. Vous trouverez toutes les infos et une pétition à signer sur le site radiosenlutte.free.fr.
Il y en a marre de l'idéologie marchande.
Vous venez d'entendre un petit jingle des radios en lutte qui se mobilise à l'occasion du passage à la radio numérique terrestre et qui met en danger toutes les petites radios associatives. À cette occasion, un appel a été lancé et vous pouvez le retrouver sur leur site internet http://radiosenlutte.free.fr.
Cette émission a été réalisée par le groupe Offensive Libertaire et Sociale de Marseille. Toutes les émissions précédemment diffusées sont également disponibles en podcast sur le site web de La Grenouille, à la page Offensive Sonore. N'hésitez pas à y faire un tour pour plus d'infos ou pour trouver nos contacts. Le groupe Offensive Libertaire et Sociale édite également une revue trimestrielle, Offensive. Le dernier numéro est paru au début du mois de décembre avec un dossier consacré à la santé et à ses rapports avec le technolibéralisme. Le prochain numéro portera sur l'enfermement, la prison et la déviance. Nous encourageons bien évidemment les auditeurs à se procurer la revue Offensive comme un prolongement de cette agréable et informative écoute. Vous pouvez trouver Offensive en kiosque ou, sur Marseille, dans les librairies suivantes. L'Odeur du Temps, Bouquine, Les Portulans, Maupetit, ou encore au local Mille Babord et à l'infokiosque Modèle Singe, rue Consola. Merci à toutes et tous, on se retrouve l'année prochaine, samedi 17 janvier, entre 11h et midi. En attendant, bon boudin les frères et sœurs. Ciao. Changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, 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 oh. Wake up all the teachers, talk to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. The world won't get no better if we just let it be. Na, 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 na. The world won't get no better. We gotta change it now. All the doctors make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. The world won't get no better if we just let it be. Change it, just you and me. We'll be right back.